Bienvenue dans la revue de presse Iconoclaste de l'EGC de Montauban. Aujourd'hui, l'actualité se dévoile dans ce cas-là de plus surprenant, parfois absurde, souvent révélateur. Aux côtés d'Alix, Hugo, Bilal, Célia, Lucas, Florian, Paolo, Clément, Noah, Enzo et Esteban, nous allons naviguer entre faits divers, croyances, confusions modernes et phénomènes culturels. Des institutions les plus symboliques aux frontières les plus contestées, de l'intime exposé au grand public aux mythes qui ressurgissent là où on ne les attend pas, cette sélection d'actualité brouille volontairement les repères. Même le sport, avec le rugby, n'échappe pas à cette lecture entre création et disparition. Cette revue de presse n'a pas vocation à hiérarchiser l'information, mais à la questionner. Car derrière l'insolite et le décalé, se cache souvent une réalité plus profonde sur notre société et notre rapport au monde. On va débuter cette revue de presse avec un édito sur un fait divers qui s'est déroulé il y a quelques semaines.
Le 19 octobre 2025, le Louvre devient le décor d'un casse aussi audacieux que ridicule. Vers 9h30, des voleurs déguisés en ouvriers, gilets orange et air parfaitement banal, entrent au musée sans éveiller le moindre soupçon. Des travaux au Louvre ? Personne ne sourcille. Il est vrai qu'on est habitué à voir des travaux presque aussi souvent que des touristes. Grâce à un monte-charge et une fenêtre brisée, ils accèdent à la galerie d'Apollon. En moins de 8 minutes chrono, ils pillent plusieurs vitrines et repartent avec diadèmes et bijoux impériaux, faisant même tomber la couronne de l'impératrice Eugénie. Elle sera retrouvée par terre, abîmée, tout comme l'ego de celui qui l'a lâchée. Mais le casse-parfait tourne vite au sketch. Gants, clés, gilets oubliés sur place. Autant de cadeaux laissés aux enquêteurs qui retrouvent des voleurs quelques jours plus tard. Bilan, 88 millions d'euros, un plan millimétré, une exécution claire. Ruiné par un oubli de débutant. On était à deux doigts du plus grand vol du siècle. On a eu à la place un tuto YouTube. Comment des guignols en gilet orange ont transformé le Louvre en moulin.
Alors voilà, le Louvre, musée le plus visité du monde, s'est fait cambrioler. Oui, cambrioler, comme dans un film. Sauf que le budget sécurité avait clairement été coupé. Parce qu'on a appris qu'un des accès numériques était protégé par un mot de passe incroyable de créativité, Louvre. Même le stagiaire en cybersécurité n'aurait pas osé. On aurait pu imaginer un musée ultra protégé, avec des alarmes, des lasers, des gardes façon Mission Impossible. Et en réalité, à peine 40% des salles sont correctement équipées. Franchement, même dans un escape game, on fait mieux. Résultat, des bijoux de la collection royale ont disparu en quelques minutes. Une équipe très organisée, très rapide et surtout très sûre d'elle. Car le détail qui finit de rendre l'histoire absurde, la fuite. Pas de limousine blindée, pas de camion discret, non. Un scooter. Les voleurs traversent Paris en deux roues, avec des bijoux royaux sous le bras. Là, le monde entier rigole. Sur TikTok, les Américains parlent de sécurité niveau baguette. Et honnêtement, difficile de leur donner tort. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas comment ont-ils fait, mais plutôt combien de temps avant que Netflix en fasse une série.
Alors on quitte à présent les bijoux volés du Louvre pour le retour de Jésus, au moins lui, s'il revient. On sait déjà qu'il repartira sans rien voler, enfin normalement.
Ayant mal calculé la rotation de la Terre, Jésus revient dans l'océan Atlantique. En effet, selon le Gorafi, il est 7h15 du matin, ce lundi 15 septembre, lorsqu'une gigantesque traînée lumineuse apparaît sur les radars de l'Agence spatiale européenne. Pensant d'abord à une météorite, l'équipe du professeur Kowalski tombe des nues en découvrant à la place du supposé fragment de roche un homme d'une trentaine d'années, barbe hirsute et toge immaculée, fendant le ciel à la vitesse de l'éclair, un sourire bienveillant sur le visage. Un moment suspendu et plein d'allégresse qui s'interrompt brutalement, l'individu volant non identifié se crachant au beau milieu de l'océan Atlantique, à 230 km de Tenerife. Déployés en urgence autour de la zone du crash, les gardes-côtes espagnols font deux constatations glaçantes. La première, l'eau de mer a intégralement disparu pour laisser place à du pinot noir bon marché, sur un rayon de 22 km. La deuxième, encore plus surprenante, aucun corps n'a été découvert sur le site, en amont ou vers le large. Nous avons observé au télescope des trous de 6 pouces dans les pieds et les mains de l'individu. C'est sûr que ça ne doit pas être très pratique pour nager le crawl, analyse le professeur Kowalski, la tête dans les mains, visiblement troublée.
On quitte à présent Jésus pour la guerre en Suède. On va dire que le message « aimez-vous les uns les autres » a dû se perdre en route.
La guerre froide en Suède. Nous sommes en 1982. La marine suédoise détecte un étrange bruit sous-marin au large de ses côtes. Immédiatement, c'est la panique. Les militaires sont convaincus qu'un sous-marin soviétique a pénétré dans les eaux territoriales. Les navires sont mobilisés, les grenades sous-marines prêtes à l'emploi et les journaux suédois annoncent l'affaire avec inquiétude. Pendant plusieurs jours, le pays entier croit à une provocation de Moscou. Mais après des analyses approfondies, la vérité éclate. Le sous-marin ennemi n'était autre que des harengs. Oui, des poissons. Leur tort ? Produire des bulles de gaz lorsqu'ils communiquent. Autrement dit, leur flatulence avait été captée par les sonars militaires et interprétée comme des bruits de moteurs sous-marins. Résultat, la Suède a lancé une opération militaire de plusieurs millions contre un banc de poissons qui pétait sous l'eau. Depuis, les médias appellent cette histoire la guerre contre les harengs, un épisode devenu légendaire dans la diplomatie mondiale. Comme quoi, parfois, même en politique internationale, il suffit d'un simple P pour déclencher une crise.
Après la Suède, on enchaîne avec la guerre entre le Canada et le Danemark, la seule guerre où on ne gagne pas un territoire, mais une cirrhose.
On amorce sur le conflit le plus insolite de l'histoire. Le Canada et le Danemark se sont battus pour une île à coups d'alcool. L'île Hans est un minuscule rocher situé dans le détroit de Nar, entre la côte du Groenland et l'île d'Elsmer. Elle se trouve en plein milieu, donc les deux pays ont décidé qu'elle était la leur. En 1973, lors de la délimitation de leurs frontières maritimes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce caillou, jugé trop petit, trop inutile et trop mal placé. Donc, ils laissent le problème à plus tard. À partir de 1984, le Canada envahit l'île d'à peine 1,3 km² et y plante son drapeau et laisse une bouteille de whisky, avec un petit message dessus « Welcome to Canada ». Peu de temps après, les Danois, à leur tour, répondent de la même manière en plantant leur drapeau et laissant une bouteille de schnapps avec écrit « Bienvenue au Danemark » en danois. Le Canada rétorque donc de la même manière. Et tout cela sans aucun coup de feu, ni blessé, ou même violence. Ce petit conflit entre ces deux pays va durer jusqu'en 2022 et aura donc duré plus de 50 ans et se solde donc par la scission de l'île en deux. L'île devient la seule frontière terrestre entre le Canada et le Danemark. Pour célébrer l'accord et la fin du conflit, les ministres des Affaires étrangères s'échangent du whisky canadien et du schnapps danois. Une conclusion qui rentre donc parfaitement dans le thème.
Après ce conflit pour cette frontière liquide, nous allons glisser vers une séparation qui laisse des traces.
Savez-vous qu'un juge allemand a dû trancher un divorce à cause d'un objet banal que chacun porte tous les jours et qui peut pourtant détruire une vie de couple ? Dans les années 2000, le tribunal de Munich a dû se pencher sur un divorce qui aurait mérité un avertissement sanitaire avant lecture. Une femme voulait quitter son mari pour une raison tristement simple, il refusait de changer de sous-vêtements. Pas un petit oubli, non. Là, on parle d'un véritable marathonien du textile capable de garder le même slip 8 jours d'affilée, comme si c'était un exploit à inscrire au patrimoine de l'humanité. Section catastrophe domestique. Lui, il appelait ça son slip préféré, comme si un bout de coton avait besoin d'un statut sentimental. Il le gardait tellement longtemps qu'il le faisait parfois sécher sur le radiateur avant de le remettre façon recyclage maison, que même les plus fervents défenseurs de la planète renieraient immédiatement. Le tribunal a dû déclarer très sérieusement que ce comportement constituait une souffrance conjugale objectivement intolérable. Les juges ont écrit ça avec un visage professionnel pendant que la greffière devait lutter contre une crise de fou rire interne digne d'un championnat. Depuis, cette affaire circule comme une légende du droit allemand. Une preuve qu'un mariage ne s'écroule pas forcément sous les grands drames. Parfois, il suffit juste d'un slip trop fidèle à son propriétaire. Voilà une histoire d'hygiène transformée en jurisprudence, et maintenant vous l'avez en tête aussi.
Clément va à présent nous parler d'étranges personnages, et ce n'est pas la fête du slip.
Apparu au début de l'année 2025, le phénomène appelé Italian Brain Rot connaît une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux, et principalement TikTok. Ce mouvement est devenu en quelques semaines une tendance virale mondiale. L'idée est simple et complètement absurde. Des créatures générées par intelligence artificielle, souvent des mélanges improbables entre animaux, objets, fruits ou même éléments du quotidien. Ces créatures sont ensuite présentées dans de courtes vidéos, accompagnées d'une voix synthétique qui parle avec un accent italien exagéré. On pourrait même dire caricatural. Le but n'est pas de faire un message ni d'être logique, au contraire. Tout repose sur le non-sens et l'excentricité. Et c'est justement ça qui plaît. Les internautes adorent créer et partager leur propre monstre italien, chacun plus loufoque que le précédent. Parmi les personnages les plus connus, on retrouve par exemple Tralalero Tralala, un requin à trois pattes équipé de baskets Nike, devenu une mascotte totalement improbable mais extrêmement populaire. Ce qui est intéressant, c'est que l'Italian Brain Rot ne s'est pas limité à TikTok. On le retrouve aujourd'hui sur Instagram, sur X ou encore sur YouTube et même dans certains contenus marketing. Des marques ont déjà commencé à réutiliser cette esthétique absurde pour attirer l'attention du public. Et certains créateurs en ont même tiré des produits dérivés, que ce soit des mini-figurines, des stickers ou encore des NFT. En réalité, ce phénomène montre quelque chose de plus profond. Dans un monde où tout doit aller vite et capter l'attention immédiatement, l'absurde devient un langage à part entière. Ce type de contenu ne veut rien dire, mais il amuse, il surprend et surtout, il se partage très facilement. C'est un parfait exemple de la manière dont les réseaux sociaux transforment n'importe quelle idée bizarre en véritable culture virale.
Restons à présent sur une putréfaction du cerveau, mais cette fois-ci par des moyens plus naturels.
Parfois, derrière un simple excès de vitesse, il y a une histoire qui dérape bien plus que la voiture. C'est exactement ce que raconte cet article du Parisien. On y suit un marabout de 47 ans qui s'est fait arrêter à Bagnoul-sur-Mer après avoir franchi la frontière espagnole, comme si c'était qualifié pour un Grand Prix. Les gendarmes découvrent donc qu'il revient de la Jonquera, où il venait d'acheter du cannabis. Et lui, très tranquille, explique en fumer 40 à 50 joints par jour. À ce niveau-là, c'est plus de la consommation, c'est un CDI chez Rolling Papers. Mais le meilleur arrive au tribunal. Le monsieur qui se présente, comme un chaman connu en Suisse, explique qu'au moment des faits, il était possédé par l'esprit de Michael Schumacher. Selon lui, ce n'était pas lui qui conduisait, c'était Schumacher qui appuyait sur le champignon. Franchement, même Netflix n'aurait pas osé ce scénario. Et il enchaîne d'y être parfois habité par d'autres personnalités, qu'il a dédié la Coupe du Monde à la France et que les esprits lui ont annoncé une victoire de Marine Le Pen. On sent que dans sa tête, il y avait plus de monde que dans un conseil municipal. Le tribunal, lui, reste très calme. Pas d'esprit, pas de fantôme, juste un conducteur très perché. Résultat, il prend 8 mois de prison avec sursis. Une affaire qui mélange vitesse, croyances mythiques et humour involontaire, mais qui montre surtout que, possédé ou pas, la justice regarde les faits et pas les esprits.
Un illuminé vers la création d'un sport mythique, il n'y a qu'un essai.
Et si je vous disais que le rugby est né d'une énorme tricherie ? On est alors en 1823 à la Rugby School en Angleterre. Imaginez un match de football de l'époque. Pas de pelouse nickel, pas d'arbitre qui siffle toutes les 8 secondes, non. C'est un joyeux chaos, ça se bouscule, ça tape dans le ballon un peu au hasard. Bref, un football version survival. Au milieu de ce bazar, un garçon de 16 ans, William Webb Ellis. Élève modèle certes, mais avec visiblement un léger problème de respect des règles. Le ballon arrive vers lui, tout le monde s'attend à ce qu'il shoote dedans comme le veut la tradition. Et lui, tranquille, il l'attrape avec les mains. Oui, avec les mains. Puis il part en courant plein axe, direction les buts, comme si c'était la chose la plus normale du monde. À ce moment-là, le match s'arrête net. Personne ne comprend ce qu'il se passe. C'est un peu comme si aujourd'hui, pendant un match PSG-OM, un joueur décidait soudain de prendre le ballon sous le bras et de sprinter vers les cages. C'est interdit, absurde, mais tellement spectaculaire que cette action va devenir une légende fondatrice. Alors, est-ce que William Webb Ellis a vraiment inventé le rugby ce jour-là ? Les historiens débattent encore. Certains disent que c'est un mythe, d'autres que c'est vrai, mais au fond, on s'affiche un peu, parce que l'histoire est tellement incroyable qu'elle a résisté 200 ans. Et surtout, ce geste fou va émerger un sport unique. Un sport où on se rentre dedans, où on avance ensemble, où on partage des valeurs de solidarité, de combat, mais aussi de troisième mi-temps. Un sport qui deviendra mondial avec une Coupe du Monde, et un trophée qui porte son nom, la Coupe Webb Ellis. Comme quoi, parfois, une simple règle qu'on décide de ne pas suivre peut créer une révolution sportive. Et ça, c'est quand même la plus belle tricherie de l'histoire du sport.
Incroyable histoire, du rugby aux vaches, il n'y a qu'un pas.
À Montauban, même les trophées sont plus rapides que certains trois quarts. En septembre 2025, l'US Montauban se retrouve au cœur d'une histoire complètement improbable. Le bouclier de Pro D2, symbole de la montée du club, est volé en pleine foire agricole à Montbeton, alors que celui-ci avait été prêté par le club à la Chambre d'agriculture. Le trophée, pourtant lourd et imposant, disparaît sans témoin et sans image vidéo. L'enquête est ouverte, mais aucune piste sérieuse n'émerge. Jean-Philippe Viguier, président de la Chambre d'agriculture départementale, se dit vraiment amer suite à ce vol. Ce vol crée la stupeur dans le monde du rugby, colère chez les supporters, incompréhension dans la région et même un peu d'humour noir sur les réseaux sociaux où certains parlent du casse du siècle version Tarn-et-Garonne. Face au silence de l'enquête, les organisateurs de la foire, jugés responsables de la garde du trophée, annoncent qu'ils vont financer un nouveau bouclier, estimé entre 10 000 et 15 000 euros. La Ligue nationale de rugby supervise la fabrication, pour garantir une réplique identique à l'original. Aujourd'hui, même si le vrai bouclier reste introuvable, Montauban s'apprête à récupérer un trophée flambant neuf. Une manière de tourner la page tout en laissant derrière une histoire incroyable qui restera sûrement longtemps dans la légende locale.
De bijoux fantômes du Louvre à des poissons transformés en soldats acoustiques, de Jésus réapparu sur Terre à un conducteur possédé par l'esprit de Schumacher, cette revue de presse iconoclaste de l'EGC de Montauban nous aura rappelé une chose essentielle. L'actualité ne se contente plus d'informer, elle surprend, amuse, inquiète et parfois déroute. Derrière l'absurde apparent d'un divorce révélé par un slip trop longtemps porté, d'une frontière arrosée ou d'un brain rot devenu phénomène culturel, se dessine une société en perte de repères, oscillant entre sérieux et dérision. Même le rugby, symbole de tradition et de transmission, n'échappe pas à cette tension entre création et disparition, reflet d'un monde qui évolue trop vite pour toujours comprendre ce qu'il laisse derrière lui. À travers ces faits divers, ces récits improbables et ces buzz éphémères, une même question subsiste. Sommes-nous spectateurs d'un monde qui bascule dans l'absurde ou simplement d'une réalité qui se montre désormais sans filtre? Ainsi s'achève cette revue de presse, où l'étrange devient banal et le banal extraordinaire. Une chose est sûre, dans ce grand théâtre de l'actualité, il vaut mieux garder l'esprit critique et parfois le sens de l'humour.